sauver Emmanuel Macron. Voilà le sens du vote des socialistes.
Ceux qui disent la béquille doivent me dire ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent que les Français aient les jambes cassées? Ben non.
Ces concessions ne sont rien par rapport au coût budgétaire que va subir ce budget.
Le Parti socialiste ne s'est pas totalement libéré du quinquennat Hollande, de son virage social-libéral.
Moi, je ne me sens pas du tout social-libéral.
Quand on se divise, on peut peut-être regarder qui sera le roi des ruines, mais à la fin, on ne gagne pas.
Le PS est accusé par les insoumis d'avoir rejoint la Macronie. Les socialistes, eux, se prévalent des concessions arrachées au gouvernement. Qui a tort, qui a raison? C'est ce qu'on regarde dans ce numéro 140 du Bourbon de Serge. Vendredi, le Parti socialiste ne votera pas la motion de censure déposée par la France insoumise, les écologistes et les communistes. Pour Mathilde Panot, ce refus vaut ralliement au bloc macroniste.
Je le dis parce que, contrairement à ce qui est raconté partout dans la presse, l'isolement n'est pas du côté de la France insoumise et des insoumis, mais bien du côté des socialistes, ceux-là même qui protestaient, qui disaient qu'ils allaient censurer le gouvernement Le Cornu s'ils ne renonçaient pas au 49-3, et maintenant qu'il emploie et qu'il a recours au 49-3, annonce là aussi qu'il ne le censurerait pas, ce qui n'a plus aucun sens et qui permet, encore une fois, de sauver Emmanuel Macron. Voilà le sens du vote des socialistes si effectivement ils ne votent pas cette motion de censure. Alors, je le rappelle, dans toute démocratie, comme dans toute assemblée, le vote du budget vaut adhésion à la majorité ou à l'opposition. Et donc, c'est ce que déterminera cette motion de censure qui sera examinée vendredi à 9h.
Mathilde Panot a raison de rappeler que les socialistes avaient fait du renoncement à l'article 49.3 un de leurs préalables pour entrer dans la négociation avec le gouvernement. En revanche, elle pousse le bouchon un peu loin en amalgamant refus de voter la censure et alliance avec le bloc gouvernemental. Parlementaire chevronnée, la présidente du groupe LFI sait parfaitement qu'il y a une différence entre ne pas prendre part à un vote et voter en faveur d'un projet de loi. Mais la polémique ne s'encombre pas de nuances. Les socialistes seraient donc devenus les auxiliaires de la Macronie, la béquille d'un pouvoir finissant, pour reprendre une expression souvent entendue ces derniers jours.
Ceux qui disent la béquille doivent me dire ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent que les Français aient les jambes cassées? Ben non. Nous, on a préféré, aujourd'hui, dire qu'on était dans une opposition qui cherchait le rapport de force jusqu'au bout, qui tordait le bras au gouvernement. Et ça, c'est ce que je préfère voir dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est que les annonces qui sont faites par Le Cornu, elles font faire la grimace aux macronistes, aux LR. On parle d'un parti qui, depuis le début, a obtenu la suspension de la réforme des retraites, 1 milliard de plus pour l'hôpital, c'est une revalorisation significative de la prime d'activité pour les Français qui ont pouvoir d'achat le plus faible, les salariés qui gagnent en gros entre un SMIC et 1,3 SMIC. On a obtenu 2000 postes en plus de recrutement pour l'éducation nationale. On a obtenu de protéger l'université, et repas 1 euro pour les étudiants. Enfin, je rappelle quand même aussi qu'il y avait le gel du barème de l'impôt sur le revenu qui devait faire entrer dans l'impôt plus de 200 000 foyers fiscaux. On a réussi à le faire abolir. On a réussi aussi à arrêter le gel des APL, qui allait quand même conduire aussi à une augmentation du coût du logement de l'ordre de 200 à 300 euros par an pour les ménages qui bénéficient des APL, pour les étudiants. Voilà, c'est franchement des gestes qui ne sont pas dérisoires et qui préservent encore une fois les catégories les plus populaires.
Des gains dont Éric Coquerel attribue la paternité à l'ensemble de la représentation nationale et non aux seuls socialistes.
Quelques mots sur les concessions faites au groupe socialiste. Alors disons déjà que parmi ces concessions, beaucoup en réalité sont des concessions que le gouvernement n'avait plus, tout simplement parce que le Parlement les avait déjà adoptées et que ce n'est pas le groupe socialiste qui a été les décrocher. Je pense par exemple à l'indexation du barème de l'IR, le maintien de l'abattement forfaitaire sur les retraités, la réduction de la ponction sur les bailleurs sociaux de 400 millions d'euros, autant de choses qui, finalement, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de les prendre. Donc dans ce qui reste, c'est moins d'un milliard d'euros, c'est-à-dire l'augmentation de la prime d'activité, la généralisation du repas universitaire à 1 euro et la création de 2000 postes, non pas d'enseignants, mais d'AESH. Et notons que, si on prend ces trois thèmes, on s'aperçoit que les coûts budgétaires sur les mêmes secteurs sont largement supérieurs à ce que va rapporter ces quelques concessions.
C'est l'Assemblée qui a voté ces mesures, tempête Éric Coquerel. Certes, mais le 21 novembre 2025, les députés ont majoritairement voté contre la partie recette du budget. Résultat, les mesures en question sont passées à la trappe et elles ne seraient jamais revenues dans le débat sans la menace des socialistes de censurer le gouvernement. Mais cette querelle en paternité autour des recettes nouvelles ne doit pas masquer l'essentiel. Aussi surprenant que cela paraisse, les députés ne connaissent toujours pas le détail des coupes budgétaires envisagées par le gouvernement. Contraint et forcé, celui-ci s'est résigné à reconduire la surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices des 300 premières entreprises du pays pour financer l'essentiel des concessions accordées aux socialistes. Mais Sébastien Lecornu entend toujours ramener le déficit à 5% du PIB. Autrement dit, il va tailler allègrement dans les dépenses de l'État. Ce qu'il a lâché d'une main pendant les négociations avec le PS sera vraisemblablement repris à la faveur des coupes budgétaires.
Ces concessions ne sont rien par rapport aux coupes budgétaires que va subir ce budget. Je suis bien en peine, au moment où on se parle, de vous dire exactement de combien elles sont, parce que c'est le plus grand opacité, on vient de le dénoncer d'ailleurs avec le rapporteur général à la conférence des présidents, du gouvernement, y compris vis-à-vis du président de la commission des finances et du rapporteur, sur ce qui se prépare. Enfin, globalement, entre collectivités territoriales, Sécu et État, c'est ça, plus de 20 milliards de coupes budgétaires que les Français vont subir. Et rien que pour l'État, c'est 13,5 milliards de coupes budgétaires à minima que va subir l'État.
La direction socialiste n'est pas née d'hier. Olivier Faure et ses lieutenants ont bien conscience qu'un mauvais coup se prépare. Alors pourquoi accepte-t-il ce marché de dupes avec Matignon? Parce qu'il pense encore pouvoir faire pression? Sans doute. Mais il y a autre chose. Et c'est Stéphane Peu, le patron des députés communistes, qui formule le meilleur diagnostic.
D'abord, le Parti socialiste n'arrive pas à trancher sa ligne. Voilà, depuis 2018 qu'Olivier Faure est à la direction, il a eu beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite. Je lui en suis très reconnaissant. Enfin, je constate aussi qu'à chaque congrès, c'est 50-50. Le Parti socialiste ne s'est pas totalement libéré du quinquennat Hollande, de son virage social-libéral, lui qui a enfanté Emmanuel Macron, président de la République. Et donc, je vois bien le tiraillement de ligne. C'est-à-dire, moi, je dis pas que les gens sont naïfs, je dis pas qu'ils sont inconséquents. Je constate des lignes politiques qui ont du mal à être tranchées. Et là, le choix qui a été fait, c'est plutôt de dire ne créons pas... ne censurons pas le gouvernement au risque d'avoir des élections anticipées qui nous mettraient un peu plus dans la difficulté. Donc je crois qu'il n'y a pas de naïveté, il y a juste un choix politique, peut-être un peu politicien, de ne pas vouloir de nouvelles élections dans notre pays.
En clair, nous dit Stéphane Peu, Olivier Faure doit composer avec son opposition interne. Et si la rupture avec la France insoumise a privé ses adversaires d'un argument majeur, un retour anticipé devant les électeurs pourrait bien relancer la contestation interne. Les hollandistes sont toujours en embuscade et espèrent bien remettre en selle le roi du scooter et de la blagounette réunis. Mais n'allez pas dire à Arthur Delaporte que le PS est toujours plombé par son passif sociolibéral.
Moi, je ne me sens pas du tout social-libéral. Qu'est-ce que ça veut dire, social-libéralisme ?
Moi, je vous pose la question.
Ah non, mais moi, je demande à Stéphane Peu, parce que finalement, vous me dites c'est lui qui dit ça. Moi, je lui dis qu'est-ce que tu entends derrière tout ça, camarade ? Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, dans le budget, on a défendu l'économie sociale et solidaire. Je ne crois pas que ce soit le social-libéralisme. Je crois qu'on a défendu les étudiants. Je ne crois pas que ce soit le social-libéralisme, le repas à 1 euro. Je crois qu'on a défendu le service public de l'audiovisuel. Je ne suis pas sûr que ce soit le social-libéralisme. Je crois qu'on a défendu le service public de l'éducation. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit le cas. Pour moi, ça s'appelle le socialisme, des valeurs qui sont dans la défense des catégories populaires, des travailleurs. Et donc, voilà, on peut aussi le reconnaître.
Alors, est-ce que les socialistes méritent, pour ces choix stratégiques divergents, d'être excommuniés des rangs de la gauche? Certes, il y a toujours des aspirants Torquemada qui rôdent ici et là. Mais les insoumis n'ont pas le monopole de la gauche, pour paraphraser une formule qui fit mouche lors d'un débat fameux en 1974. Depuis le congrès de Tours en 1920, la gauche se compose d'un pôle réformiste et d'un pôle radical. On peut se lamenter, ou pas, mais c'est comme ça. Chaque fois que l'un ou l'autre camp est allé séparément à la bataille, il s'est pris une gamelle, une leçon que Cyrielle Chatelain a rappelée.
Moi, j'aurais préféré censurer avec l'ensemble des groupes de gauche. Après, leur position était connue. Olivier Faure et Boris Vallon l'ont dit publiquement qu'ils ne censuraient pas. Donc elle n'a rien de surprenant. Moi, je leur dis, le diable se cache dans les détails, s'engager sur un pacte de non-censure sans connaître les détails, c'est effectivement un pari risqué. Cela ne remet pas en cause le périmètre Grenieux, cela ne remet pas en cause le travail qu'on a avec l'ensemble de nos partenaires pour le groupe écologiste et social. L'autre, enseignement de ce week-end, c'est que quand la gauche est divisée, elle perd. Nous avons une législative partielle sur laquelle la gauche échoue à quelques voix à finalement se qualifier au second tour. Et donc, la preuve est là. C'est-à-dire que quand on se divise, on peut peut-être regarder qui sera le roi des ruines, mais à la fin, on ne gagne pas. Et donc, nous restons clairs sur notre ligne. La gauche doit être unie. Et c'est pour ça qu'on préférerait faire l'ensemble de ces démarches ensemble. Aujourd'hui, c'est pas que possible, mais nous ne couperons aucun pont.
Cyrielle Chatelain fait référence à l'élection législative partielle d'Orléans. Dimanche dernier, il a manqué 11 voix à la candidate socialiste pour être au second tour. Résultat, ce dimanche, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, affrontera un candidat du Rassemblement national. À la différence de 2024, la France insoumise avait choisi de présenter un candidat. Celui-ci a obtenu 7% des suffrages contre 27% à la candidate socialiste. Divisée, la gauche a été éliminée. Unie, elle aurait barré la route au RN et peut-être remporté la partielle. Ce samedi, plusieurs figures de la gauche feront le déplacement à Tours pour soutenir le maire écologiste Emmanuel Denis, candidat à sa réélection. La secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, les députés Clémentine Autain, François Ruffin et Benjamin Lucas, et même un sénateur place publique, Grégory Blanc, tenteront de ranimer la flamme de l'unité le temps d'un meeting. Ils ne manqueront pas d'évoquer la primaire de la gauche, au moins en coulisses. Celle-ci devrait se tenir le 11 octobre prochain, à condition que les militants socialistes valident ce processus de désignation. Cela n'étonnera personne. François Hollande y est farouchement opposé. Cette consultation signerait la fin de ses espoirs de retour. Une bonne raison d'encourager cette initiative. Merci d'avoir regardé cette chronique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager. Vos dons constituent la principale ressource de Pure Politique. Pour nous soutenir financièrement, je vous donne rendez-vous sur DonorBox. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et impertinents. Ce vendredi, les députés se prononceront sur les deux motions de censure qui leur sont soumises. On se retrouve donc lundi pour un bourbon de Serge.